Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Il a été un jour et il va être pour nous maintenant, tout de suite, immédiatement là, l'histoire d'un homme malheureux, d'un homme qui n'était pas satisfait de son sort, d'un homme à qui rien ne réussissait. Les objets lui sautaient des mains, les femmes évitaient son regard, son pied se posait sur la plus infime merde de chien trouvée sur le trottoir. Cet homme s'est décidé à fuir ce monde et est parti. Et un jour, quelqu'un lui a dit sur la route, « Écoute, vu ce qu'il t'arrive, je serai toi, moi j'irai voir Dieu. » Dieu, c'est un grand personnage, quelqu'un qui est tout puissant, quelqu'un qui a pouvoir de rétablir le cours néfaste des choses. Alors moi, si j'étais toi, je me rendrais là-haut, très haut dans le ciel, et j'irais demander des comptes à Dieu. Et donc l'homme marche en direction du ciel pour demander des comptes à Dieu à propos de sa vie qui ne lui convient pas. Et en chemin, il rencontre un loup. Et le loup lui dit, « Ah, puisque tu pars vers le ciel, explique, va et explique, donne-moi l'explication du pourquoi. » Que je me régale de rogaton ou de friand de venaison, je reste tout efflanqué. » Et l'homme se charge du message du loup. Un peu plus loin, il rencontre une belle fille. Cordeliane, peau de pêche, enfin, tout ce qu'il faut pour séduire, de grandes boucles. Et puis, en bonne santé, une belle fille en bonne santé, toute triste, et qui lui demande, mais va demander là-haut, au Tout-Puissant, pourquoi, alors que on dit que je suis belle, la tristesse ne quitte jamais le fond de mon cœur. Un peu plus loin, c'est un arbre. Un arbre qui lui dit, puisque tu vas là-haut, voir le Très-Haut, enquéris-toi de la raison pour laquelle mes fleurs jaillissent au printemps, mais jamais aucun fruit n'a poussé à l'extrémité de mes ramures. Et Dieu frappe, et Dieu accueille l'homme, et Dieu écoute les récriminations de l'homme, il écoute le récit de ses privations, de son excès de travail, de son manque de résultats. Et afin de réparer l'injustice qu'il sent, quelque part, avoir commis, il lui fait don de la chance et lui dit « Retourne chez toi, elle t'attend. » Mais avant de s'en aller, l'homme expose le cas du loup, le cas de la femme et le cas de l'arbre. Et Dieu expose à l'homme ce qu'il va être bon de faire pour le loup, pour la femme et pour l'arbre. Et voilà l'homme qui passe devant l'arbre et lui dit « Ah l'arbre, j'ai trouvé, il y a une caisse d'or enfouie dans le sol qui empêche tes racines de pénétrer. » Alors, l'arbre chuchote au moyen de ses feuilles secouées par le vent et il lui dit « Eh bien, creuse, emporte-la » Et l'homme dit « Ah, j'aimerais tant, mais je pars à la rencontre de ma chance qui m'attend là-bas. » Et puis l'homme arrive devant la femme. Il lui dit « Il ne te faut pas rester seul. Il convient de te marier. » Et la femme sursaute, elle dit « Eh oui, c'est une idée. Et pourquoi ce ne serait pas avec toi ?» Et l'homme dit « Ah non, c'est que je ne peux pas rester. Je cours chercher ma chance qui m'attend là-bas. » Et puis l'homme arrive devant le loup. Et lui parle de son voyage, de sa rencontre avec l'arbre, avec la femme, avec Dieu. Il dit « Je ne suis pas parti avec le trésor, car je dois garder mes mains libres pour porter ma chance. Je ne suis pas parti avec la femme, car je dois garder ma liberté pour saisir la chance qui m'attend là-bas. Ah, au fait, bon, pour toi, Dieu a dit que, afin de retrouver ta santé, de ne plus rester le vieux loup efflanqué que tu es à présent, eh bien, il te suffira de croquer le premier imbécile venu qui passera devant toi sur le chemin. Et là, tu reprendras force et confiance. Ah, alors le loup réfléchit, dit « Ah oui, il me suffit de croquer le... » Eh ben, ça tombe bien, dit le loup, car j'en ai justement un devant moi comme je n'en verrai pas beaucoup. Il a dit cela, et le temps d'un clignement de ses deux yeux, il l'a mangé.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr et aussi sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Patrice Weiss. Bonjour.
Bonjour.
Patrice, bonjour. Vous êtes conteur et vous êtes ici pour nous annoncer un passage que vous donnerez au Café des Voyageurs mardi 13 novembre à 19h. Alors, en introduction, vous nous avez proposé un conte intitulé « L'homme qui partit voir Dieu ». Dieu, quelle est sa place actuellement dans le conte ?
Alors, Dieu, c'est une divinité comme d'autres. Hein. Voilà, il est souvent un objectif à atteindre, ou bien un compagnon de voyage, ou bien un personnage de rencontre. Alors, les contes que je vais dire pour le Café des Voyageurs sont tous des contes de voyage, ce qui est extrêmement facile, car le conte est par définition un récit de voyage. Et il est beaucoup plus difficile de trouver des contes qui n'en contiennent pas que des contes qui en contiennent. Hein. Le conte, c'est un récit de transformation, voire de métamorphose. On ne se métamorphose pas complètement, on se métamorphose facette par facette en obtenant et en gagnant certaines qualités ou certaines compréhensions du monde à chacune des péripéties. Donc le conte est par définition un récit de voyage. Hein. Adieu mes enfants. « Mon voyage est fini, dit le voyage mourant. Hein » Voilà. Donc, le voyage lui-même a la signification et la métaphore de la vie et de son cortège de découvertes. Hein. Le voyage, c'est l'outil essentiel de transformation. Quand on dit qu'un homme chemine, on veut dire par là qu'il se transforme. Quoi. Donc, Dieu, c'est une des trouvailles, une des rencontres qui s'opère au détour des chemins. Voilà.
C'est un dieu qu'on trouve toujours aujourd'hui sur les chemins et les routes.
Non, c'est assez annexe hein, pour de mon point de vue et puis du point de vue du répertoire lui-même. Hein, c'est-à-dire que c'est un personnage qu'on rencontre à égalité avec le corbeau, avec la pierre, avec toutes les petites animalcules qui ont quelque chose à dire. Hein. Le conte, c'est une des façons d'entendre et de vous faire parler le monde, quoi, de ressentir toute la force poétique que le monde dégage et de le rendre, de le restituer au moyen d'un poème narratif. Voilà.
Et donc, on va revenir aussi sur cette présentation au Café des Voyageurs à Saint-Romain, où donc cette soirée de conte est intitulée comment ?
Alors, je l'ai appelé un aller simple vers Pétaouchnok. Mon répertoire est constitué de contes sur la nature, sur l'eau, sur les oiseaux, sur les arbres, sur les étoiles. Et donc, j'ai extrait un conte de chacune de ces spectacles, de façon à présenter différentes facettes du voyage, hein, et les différentes leçons que l'on peut escompter d'un voyage. Alors, le voyage, il peut être rêvé, il peut être toujours différé. Hein. Le voyage différé, c'est un peu Macorlan. Vous avez l'écrivain des ports, l'homme qui n'est jamais parti et qui a toujours rêvé sur les corsaires et sur les villes de légende et sur les héros de bistrot qui racontent des épisodes de leur vie rêvés ou réalisés. Voilà, il y a le voyage imposé, le voyage qui nous est imposé par les péripéties de la vie, hein, et qui est l'occasion, qui est une nécessité, qui se présente à nous, une épreuve, afin de reconquérir un bonheur qui nous a échappé. Il y a d'autres formes de voyage. Il y a aussi le voyage que des mises en garde dans les contes, des mises en garde à propos du voyage. Quelque chose que, une fois franchi une certaine barrière, une fois franchi un certain rivage, il est extrêmement dangereux de revenir en arrière et de rester entre deux mondes, quoi. Auquel cas, on risque de devenir un errant, quelqu'un qui ne fait plus partie de l'un ni encore partie de l'autre, hein, un fantôme. C'est tout. L'importance du mythe du Hollandais volant. Le Hollandais volant, c'était un bateau qui errait avec des voiles déchirées, avec des personnages vêtus de costumes des siècles passés et que l'on croisait dans le noir au milieu des vents, au milieu de la tempête. Ce sont des gens qui n'avaient pas osé affronter leurs rêves jusqu'au bout et qui s'était laissé emporter par les regrets. C'est l'histoire de Bran le Bienheureux, un des plus vieux éléments de la mythologie européenne, quoi. Voilà, mes contes, je les ai choisis en fonction de différentes leçons et différentes formes de voyage.
Vous teniez à préciser la différence entre voyage et conte.
Donc, la sagesse que l'on acquiert au fil de la vie, au fil du voyage, commence par un refus. Charles Moron, c'est celui qui a écrit le Royaume errant, qui se passe dans le Vercors, hein, qui démarre dans la Croix, puis il y a le long de la vallée de la Durance, Luc, dit Col de Romeyer, voilà. Et donc Charles Moron dit toute sagesse commence par un non. L'esprit en a assez d'une maison où règne l'agitation, la vanité, la guerre, la bêtise, l'ennui. Violemment, calmement ou furtivement, il ouvre un jour la porte et dit « Ceci n'est plus ma maison, je m'en vais. » Donc, la sagesse commencerait par le voyage. Mais alors, de quel voyage s'agit-il ? Donc, pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que j'appelle le bougisme, qui est le culte du déplacement démesuré, incessant. Alors, c'est plutôt le développement, pour moi le voyage, c'est le développement de notre capacité à percevoir la beauté immédiate autour de nous. Et dans cette capacité à percevoir la beauté, la fréquentation de la nature, c'est un allié. Et là, je vais citer un monsieur qui s'appelle Abraham David, qui dit « Les solitudes dépouillées offre à l'esprit contemplatif les correspondances qui peuvent l'aider dans sa contemplation, au lieu de le lier. À leur façon, ils disent les mots qu'ils cherchent, tandis que la famille ou la foule disait les mots qu'il fallait dépasser. Entre les murs à la chaux d'une cellule, les arbres, l'eau, les horizons d'un ermitage et l'âme d'un solitaire, un colloque s'engage qui est un véritable échange vital. » Donc, le réel voyage, c'est la capacité à développer son émerveillement. Et ça n'a rien à voir avec les altérations contemporaines que constitue tout ce qui tourne autour du mot « tourisme ». D'ailleurs, le mot « tourisme » contient une notion de voyage circulaire, frileux, rassurant. Le tourisme nous fournit un cortège de propositions frelatées. Le charme, qu'on pourrait qualifier de « mignardise rassurante ». Le pittoresque, ce qui peut être peint, ce qui doit être peint, ce qui doit être considéré comme beau. La couleur locale. Un cortège de petites conventions figées qui sont censées définir l'esprit d'un lieu. Et bien sûr, l'aventure que l'on nous vend en petites dosettes, en tranches inoffensives, bien à l'heure, à la journée ou à la semaine pour les plus téméraires. Et on oublie, dans ces cas-là, que le vrai nom de celle qui vous tombe dessus sans crier gare, c'est la galère. Le tourisme propose la destination en effaçant le trajet qui est, lui, le véritable acteur de la transformation. Le tourisme nous vend un emballage vide. Vide parce que le but n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est le chemin. Car je pense qu'on peut se demander si « On the road again » n'est pas désormais devenu le cri de guerre de la mondialisation avec toute sa suite de déracinement et de destruction. Car il est bien sûr d'autres formes de voyage. Alors, sans parler des substituts pharmaceutiques ou mystiques basés sur les petites fumées magiques qui sont depuis bien longtemps intégrées aux distributeurs automatiques et aux propositions clés en main des organisateurs de tourisme, il y a d'autres voyages. Car si le voyage nous transforme, il est permis de penser qu'une transformation est peut-être un voyage. Je veux dire que mes préférences vont vers un mouvement diffus parce que multiforme, de réhabilitation des lieux que nous occupons. Alors, ça consisterait à abandonner le bougisme et puis à se nourrir de la connaissance d'un lieu, écouter les voix des êtres qui le peuplent ou qui le peuplaient, partir à la recherche des êtres qui le peuplent et de ceux qui le peuplaient, et un voyage au cours duquel on devient l'apprenti du lieu qu'on habite, un voyage autour duquel on engage avec le lieu un processus d'écoute, d'apprentissage, de réhabilitation et d'évolution symbiotique, c'est-à-dire en commun, d'évolution commune avec d'autres, où tout le monde tire son épingle du gâteau à égalité, d'évolution symbiotique entre les plantes, les bêtes libres et les humains. Et donc, pour expliquer ce que j'entends par voyage, je m'appuie sur encore la pensée de Charles Mauron. L'étrange ne se trouve pas nécessairement parmi les maelstroms, les hippocampes noirs et les incroyables Florides. Il est comme la beauté devant notre seuil, et même en deçà de notre seuil, avant même qu'on l'ait franchi. En fait, partout où nous rencontrons l'étranger, c'est-à-dire autrui ou autre chose. Et comme notre vie est faite de contacts, il se trouve partout où nous vivons. Il est beaucoup plus important de saisir tout à coup l'étrangeté et la beauté de sa propre maison, l'humour d'une parole ou le fantastique d'une destinée.
Et ce texte s'intitule comment ?
Ce texte que je viens de lire, c'est « Ce que j'entends par voyage hein ». C'est-à-dire, tout le monde bouge, tout le monde voyage à l'heure actuelle. Je veux dire par là qu'il y a une définition à prendre, il y a un parti pris. Hein. On a les oreilles rabattues, on est entouré de gens qui tournent, qui se déplacent, qui vont très loin, qui reviennent. Voilà. Que devient la mythologie du voyage ? Que devient la mythologie de la route ? Que reste-t-il ? Donc voilà, c'est ma façon de dire les choses, c'est que pour moi le voyage, c'est le voyage peut être immobile, le voyage peut être local, il est en tout cas pédestre, c'est une façon de s'abandonner à l'inconnu, de développer sa capacité à percevoir la beauté et la disponibilité à s'y abandonner. Voilà, le mot savant est très à la mode, c'est sérendipité, c'est la capacité de percevoir et de s'abandonner à ce que l'on n'a pas prévu de rencontrer. Voilà, ça c'est une capacité que l'on développe par le voyage. Voilà.
Patrice Weiss, vous-même donnez ou comptez depuis 1981, donc près de 37 ans. Ce parcours, vous l'avez commencé avec quel conte ? Ceux de votre inspiration ou alors vous aviez des contes d'autres auteurs ?
Alors, les comptes sur lesquels je m'appuie, c'est les comptes que j'ai puisés dans le collectage, dans les collectages qui ont été effectués au 19e à l'époque romantique. Hein, il y a un fonds extrêmement important de gens qui ont consigné la littérature orale comme on leur est fait d'un collectage et d'un étiquetage du monde vivant, hein, avec la même précision, la même exigence. La partie de répertoire qui m'intéressait le plus, ce sont les contes étiologiques, c'est-à-dire ceux qui parlent du merveilleux de la nature, qui nous donnent une interprétation poétique de la réalité. Donc des contes sur les oiseaux, des contes sur les arbres, sur les fleurs. Voilà. Alors cet aspect-là du répertoire a été relativement négligé par les collecteurs de l'époque romantique, qui cherchaient des contes merveilleux, si possible du légendaire, et si possible du légendaire celtique. C'était un peu une espèce de la pensée était canalisée vers un certain objectif un peu fantasmagorique qu'on a tenté d'atteindre en recueillant la littérature populaire. Alors tout ce qui était conte scatologique, conte érotique, conte et conte étiologique aussi a été totalement délaissé. Et délaissé parce que les hommes qui racontaient qui collectaient ces histoires était extrêmement étranger à la nature. À titre d'exemple, voilà, un conte qui ne peut pas être perçu par quelqu'un qui est en dehors du monde naturel. Madame la Buse, variable, comme disent les savants, était sur son piquet. Et alors est arrivé le troglodyte. Le troglodyte... ou bien d'autres versions diront le roitelet. Le roitelet, disons-le plutôt. Alors le roitelet, on sait qu'il a une couleur très imprécise. Est-il jaune? Est-il vert? Est-il gris? En tout cas, il a une rutilante couronne orange sur la tête. Et son cri est très, très fin, tellement fin que la plupart d'entre nous n'ont pas des oreilles assez efficaces pour saisir son chant. C'est un chant suraigu qui ressemblerait à si, 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 si. Donc, le roitelet s'est entiché de la buse, la belle buse sur son piquet. Il s'est rapproché d'elle de jour en jour, et puis il s'est arrangé pour lui parler, et puis pour se rapprocher encore un peu plus près. Et puis ils se sont tous les deux retrouvés dans un grand lit. Et après une nuit de folie, voilà le petit roitelet qui se rapproche de Madame la Buse et qui lui dit « Alors, c'était bien ?» Et Madame Labuse lui dit « Excuse-moi, mon grand garçon, mais je dois t'avouer que je n'ai rien senti. » Bon, là, il y a une certaine différence de taille entre les deux, hein, entre la buse variable et le tout petit roitelet qui fait 3 grammes. Donc ça ne fait sourire que ceux pour qui la fréquentation de ces oiseaux est relativement possible. Alors là, le petit roitelet essuie une larme au coin de son œil et dit à Madame la Buse « Pourtant, je m'étais engagé si profond. » Voilà le genre de petite perle qui n'est pas perceptible, compréhensible pour les collecteurs romantiques du 19e siècle qui cherchaient avant tout des épopées celtiques. Voilà. Mais c'est toutes petites anecdotes comme ça qui permettent de marquer la nature, qui donnent une explication à la crête d'un oiseau, à la couleur d'une fleur, ou à un phénomène aérien comme ces fameuses araignées, vous voyez, qu'on appelle des fils de la Vierge, et que les complotistes de nos régions interprètent comme la preuve incontestable des retombées chimiques des chemtrails. Tout aussi ignorant que les collecteurs du 19e siècle, ils ignorent que, sous certaines conditions, hein, il y a l'apparition de très très longs filaments qui sont en fait des petites araignées qui confient leur destinée comme ça au souffle du vent et dont le corps se prolonge par des fils immenses. Voilà. Donc, à partir de ces contes-là ont été créés à partir de l'émerveillement né de la rencontre entre... l'humain et la nature. Voilà. Et c'est cela que j'ai pris en priorité comme source d'inspiration.
On peut aborder aussi cette idée des contes étiologiques, hein, comme vous le précisez dans votre présentation, c'est-à-dire une explication poétique de la réalité. Justement, ces histoires de fils d'araignées qu'on apercevait d'ailleurs dimanche, hein, avec ce soleil, c'est en fait des araignées qui peuvent monter jusqu'à 30 000 mètres d'altitude pour voyager d'un continent à l'autre, parfois même. Par rapport, vous présentez comme élève de Pinocchio et Mato, qui sont-ils?
Alors, ce sont deux femmes mimes. Voilà, donc j'ai travaillé pour devenir un acteur corporel, ce que je ne suis pas devenu. Voilà, et je pense que la parole n'est pas tout, que quoi qu'on fasse, il y a autre chose que les mots, il y a ce que l'on est intimement, il y a les émotions que l'on a vécues et que l'on porte par le corps sans que... On le contrôle toujours. Donc le corps parle, tant qu'à le faire parler. Donc j'ai tenu à l'utiliser au même titre que des interjections, que des cris, que la voix, que le langage articulé. Voilà. Donc je suis un mime qui parle. Je raconte avec mes pieds, avec mon ventre, les épaules et le bout de mes oreilles le plus possible. Voilà.
Vous avez aussi été élève de Maximilien de Croux et de Gérard Le Breton. Alors, qui sont-ils?
Alors,
aussi
Maximilien de Croux, c'est le fils d'Étienne de Croux. Étienne de Croux, c'était le grand maître du mime, celui qui a formé Marceau et d'autres, quoi. C'est un homme qui, dans une cave parisienne, avec un nombre très restreint d'élèves, a décomposé à l'infini tous le répertoire possible de tous les muscles du corps. Donc c'est une étude quasi anatomique du mouvement. Et en ce qui concerne Maximilien de Croux, c'est une école qui a duré quelques années, qui se présentait comme la pantomime classique, une école de pantomime classique, c'est-à-dire les grands personnages de la commedia dell'arte à l'époque où les comédiens autres que ceux du théâtre le français n'avaient pas le droit de s'exprimer par la parole et où la pantomime était une façon de contourner l'interdit qui était fait de se produire autrement qu'en français. Parce qu'en fait, il y a eu une longue période au XVIIIe siècle où les seuls comédiens autorisés étaient ceux du théâtre le français, la comédie française, et de toute façon, il n'était pas permis de s'exprimer dans les langues régionales qui étaient largement majoritaires jusqu'à la fin du XIXe, quoi.
Je reviens un peu sur les contes étiologiques. Quelles sont les bases de ce type de contes? Vous en avez parlé un petit peu au début par rapport à ces contes qui ont été écartés parce que ne convenaient pas à une certaine culture celtique, comme vous disiez. Ça en fait partie de ces contes qui ont été écartés?
Alors donc, la norme du XIXe siècle, c'était la reconquête d'une mythologie française. Hein. Le grand professeur, le grand maître à penser de cette période, c'est... il y a Camille Julian, des gens comme ça, et puis Arbois de Jubainville, et aussi Dontenville un peu plus tard, c'est-à-dire le père de ce qu'on a appelé la mythologie française. Donc il s'agissait à tout prix de prouver qu'il y avait eu autre chose que l'héritage gréco-latin. Donc on s'est mis à chercher partout du celte, donc par exemple de la pierre à sacrifice. On s'appuyait sur un certain nombre d'images qui nous avaient été données par les historiens latins et on cherchait à tout prix tout ce qui pouvait conforter ces images anciennes, archétypales. Hein, le druide, le gui, la pierre à sacrifice, les sacrifices humains. Donc on cherchait du celtisme partout. Donc à défaut de celtisme, donc on s'est rabattu sur le conte merveilleux. Et tout le reste était des choses qui n'étaient pas dignes d'attention pour les folkloristes du 19e siècle. Hein. Et donc cette structure de pensée, on en hérite, quoi. Hein. On en hérite et on peut voir beaucoup à travers la toponymie, la subsistance de ce mode de pensée. Par exemple, il y a des choses, des interprétations des noms de lieux qui sont typiquement des interprétations, pour moi, du 19e siècle. Par exemple, là, il y a un vocable toponymique qui est très très répandu, c'est l'Autaret. L'Autaret. le col du Lautaret. Alors donc, on a découvert tout ce courant de pensée de l'époque Napoléon III, en gros, hein. Viollet-le-Duc. Hein. On a découvert, à un moment donné, que ça pouvait venir de Altare, l'autel. Donc, on l'avait, la fameuse pierre à sacrifice. Hein. Tous les lieux dits Lautaret étaient des lieux de culte en plein air, bien sûr, sacrifice humain, druides et tout ça. On était sûr, on était emballé, voilà. Et en fait, si on regarde bien, il y a un petit substantif, un petit nom, un petit adjectif, pardon, occitan, qui est tarei. Tarei, ça veut dire usé, râpé. Et l'aupe, l'aupe, c'est ce qu'a donné la loupie. C'est ce qu'a donné aussi parfois le col du loup. En fait, le col du loup, c'est souvent le col de l'aupe. Aupe, c'est une très vieille racine qui a donné alpa. Hein. Et donc, l'eau tarée, c'est pour moi un alpage usé. C'est un alpage usé, c'est un alpage où il faut user avec précaution. Si vous regardez le sud du Vercors, la croix du Lautaret, c'est l'endroit où les troupeaux sont... C'est une réserve, c'est l'endroit où on met les troupeaux tout à fait à la fin, à la fin de l'été. Voilà, nous portons en nous un certain nombre de clichés extrêmement anciens, hein, et il faut faire très attention dans ce qu'on véhicule, de comprendre où est la source, quoi. La pensée a une histoire, quoi.
Une question me vient, c'est aujourd'hui, existe-t-il encore des conteurs qui créent des contes ou qui racontent? Et quelle est la part de mythologie dans ce qu'ils proposent?
Alors, nous héritons de grandes cellules, de grands motifs, de grands archétypes, de matrices qui sont en fait des canevas qui nous propose des situations types, un grand nombre de situations types auxquelles nous sommes confrontés dans le voyage de la vie, quoi. Et la plupart du temps, il s'agit de s'appuyer sur cette structure fixe qui nous est donnée, cette structure archaïque fixe, et d'insuffler du nouveau. Hein. C'est un conte extrêmement préparé, extrêmement analysé, extrêmement pensé, va permettre d'énormément improviser. Hein. Et ces structures rigides, de par leur fond, vont nous permettre d'être extrêmement productifs au niveau de la forme. En gros, ce qui appartient à un conteur, pour le dire autrement, c'est l'habillage. Le squelette ne lui appartient pas. Le squelette, nous héritons de squelettes, et par ces squelettes, nous impulsons une nouvelle interprétation, nous lui donnons des habits neufs, nous donnons une nouvelle interprétation à des mythes, des gros archétypes anciens. Voilà, c'est une. Il faut avoir la modestie de considérer que nous appuyons sur un fond commun qui nous appartient à tous, et que la seule originalité de chaque conteur, c'est la forme, c'est l'habillage.
Vous voyagez à travers les mots aussi, non?
Voilà. Alors les mots, c'est passionnant parce qu'en fait, ils ont tous une histoire. Ils ont une histoire, les mots. Et nous héritons de plusieurs strates. Enfin, notre langage est le résultat d'une série de pattes feuilletées, quoi. Nous sommes à la couche supérieure. Et avant, il y a eu d'autres choses. Et d'autre part, il y a des confluences entre les peuples, entre les histoires. Donc, notre langage est constitué d'un fond très archaïque, de mots dont on ne connaît plus le sens. Il y a des mots qui résonnent et on ne sait pas exactement. C'est comme un vieil outil chargé, un vieil outil aratoire qu'on extirperait d'une grange et dont on ne connaîtrait pas vraiment le contenu. C'est des vieux outils qu'on trouve. Si on ne trouve pas le geste qui va avec, ils sont totalement inopérants. Et c'est un peu le cas des mots, quoi. Il y a des mots, on pressent qu'ils ont une charge cachée. Et en vérité, ils sont multisens, parce qu'ils sont très stables, les mots. Et même les noms aussi sont stables. Les noms de lieux sont très stables. Hein, ils ont, si on regarde les, voilà, si on cherche les attestations anciennes des noms de lieux, on s'aperçoit que le changement est infime. De même que il y a des mots que nous pratiquons qui étaient déjà utilisés au Xe siècle. Pas tous. Et puis beaucoup ont disparu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si le mot est stable, son sens, lui, est très mouvant, quoi. Un même mot a pu avoir une succession de sens extrêmement nombreux. Et donc, la magie du langage vient justement de cette polysémie, du sens caché, du sens oublié. D'ailleurs, un grand nombre de nos mésententes viennent du fait que nous utilisons le même langage, les mêmes supports, les mêmes symboles linguistiques, les mêmes sons, mais que nous n'y mettons pas le même contenu, quoi. Donc toute discussion avec autrui devrait commencer par une discussion, disons, de lexicale, quoi. Parce que, voilà, pour moi, la magie du mot vient justement de ça, la polysémie et puis le sens caché.
À l'heure actuelle, le conte, quelle place a-t-il dans la culture? Et est-ce que son principal écueil, on pourrait se référer peut-être aux novlangues d'Orwell avec 1984, où là, une civilisation subit un appauvrissement du vocabulaire de manière à endormir l'imagination?
Voilà, moi, il me semble qu'effectivement que la variété lexicale, le grand nombre d'offres, le chatoiement le plus étincelant possible de la langue, c'est une condition de notre liberté, quoi. Quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer, qui n'a que 300 mots, est prisonnier. Il ne peut que hurler, il ne peut que bousculer, parce que il y a des subtilités de ces émotions qui sont intraduisibles, quoi. Donc, effectivement, je crois qu'il faut promouvoir la musicalité des mots, tout simple, même de ce qui n'est pas immédiatement compris, quoi. La musique, les mots contiennent une musique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de se rappeler qu'à une époque ancienne, la musicalité, la poésie, existait avant la prose. La poésie a d'abord été un outil à la mémorisation. Je vous raconte un morceau d'une épopée sur laquelle je travaille. Voilà. Donc c'est une histoire très connue, c'est Merlin. Mais il y a deux versions à Merlin. La première, c'est quelqu'un qui naît de la rencontre entre un magicien entre un mortel et une magicienne, voilà. Et l'autre version, c'est un roi, un homme qui a eu le pouvoir et qui un jour fuit, abandonne ce monde, part dans la forêt. Donc, voilà, je me réserve de faire un petit morceau de cette épopée pour l'Hôtel des Voyageurs. Ça serait quelque chose comme ça. L'histoire ici, je vais chanter. D'un homme qui régna puissant, puis dans sa rage et sa démence, gagna pouvoir de devinance, grand art de voir loin devant. L'histoire ici je vais chanter, de Maerdin qui devint Merlin, quand sa voix rauque douce devint. Comme l'oiseau, couleur de nuit, au bec trempé dans le soleil du midi. Devant un feu, deux vieux amis, par les souvenirs assemblés, en se narrant deux vieux exploits, firent jaillir de crues vérités. Parole rapportée entraîna une querelle qui se changea en d'infinis cruels combats. Cité entière fut rebrûlée et tous leurs habitants passés, ou par la hache ou par l'épée. Le roi de Cornouailles, père et dur, et Myrdin, ses frères comme des rocs, avec Rodard de la Cambrie, ils se battaient comme furie, faisant guerre à Gwendoléur qui commandait
l'armée des Scots. Les frères si loin s'avancent parmi, les corps en sueur, les coups, les cris, qu'ils sont battus et renversés, et leur sang se mit à couler.
Merci.
Voilà, pour dire que qu'au départ, il y a eu d'abord la musique, il y a eu d'abord la rime, il y a eu d'abord, parce que les aphorismes, les sentences se mémorisent beaucoup plus facilement qu'une phrase ordinaire. Hein. Et que donc, lorsqu'on écoute une de ces épopées, qui peut durer très 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 longtemps, on ne sait pas qu'on est emporté par certains mots, par le flot du mot et par l'histoire. Il y a plusieurs, il y a Nipper niveau lecture. Il y a la chanson, il y a la musique intérieure aux mots et il y a le fil de l'histoire. Et de temps en temps, on va être happé par une de ces trois, forces, quoi.
Donc, en parlant de musicalité des mots, vous avez aussi celui des instruments. Donc vous accompagnez à l'accordéon et à la vielle. Ce sont des instruments qui vous inspirent aussi dans la manière de compter.
Oui, chaque instrument impose réellement quelque chose, quoi. Il restreint, c'est certain. Je m'en sers plutôt, je jalonne mes histoires de moments musicaux. Je prolonge des climats émotifs avec le son, ou bien je me sers de... Et je me sers des bourdons comme un plancher sonore qui me donne un repère rythmique et mélodique, quoi. Et je m'appuie sur la musique traditionnelle. Voilà.
Patrice Weiss, merci de nous avoir donné un peu de votre temps et de nous avoir aussi présenté cette soirée du 13 novembre qui aura lieu à 19h au Café des Voyageurs à Saint-Romand. On peut vous lire ou vous voir autrement que dans ces soirées?
Je compte présenter bientôt la totalité de Mayerdin qui devient Merlin, ce qui est le fruit d'un travail de 2 années, quoi, et que je compte présenter prochainement.
Sous quelle forme?
Bah, sous la forme d'une épopée, d'une très longue, un très long récit rimé, chanté et joué à la musique. Voilà.
Est-ce que vous avez aussi une visibilité sur Internet?
Voilà. Patrice Weiss, conteur Vercors, vous trouverez un site qui avec plusieurs sons disponibles, quoi, pour ceux qui s'intéressent à mon travail.
Eh bien, Patrice, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, Radio Diwa, votre accueil.
Okay, the bird.